Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au téléphone Madame Anne-Claude Ambroise Rendu. Bonjour.
Bonjour.
Anne-Claude, vous êtes historienne et autrice et vous serez présente sur le Diwa, notamment le 28 mars à la salle Séverine Baumier à 10h et pour présenter une conférence sur la pédocriminalité face à l'impunité des adultes. Quelle justice pour les mineurs avec l'écriture inclusive ES. Donc, c'est organisé par Les Chouettes et Solidarité Femmes du Diwa. Et ça sera un échange mené par Anna Rougier, qui est journaliste. Alors, avant tout, Madame Ambroise Rendu, vous êtes historienne.
Alors, oui, je me suis intéressée à l'histoire des mentalités, c'est ce qu'on disait à l'époque, et puis ensuite à l'histoire qu'on appelle l'histoire des représentations. Et je me suis intéressée notamment au contenu médiatique à la fin du 19e siècle. Et c'est à cette occasion que j'ai découvert, en examinant les rubriques de faits divers, un premier moment d'un intérêt fugace, mais intérêt quand même pour la question des violences sexuelles exercées sur les mineurs. Et évidemment, la question de la réponse pénale à apporter à ces violences sexuelles. Donc ça a été le moment d'une découverte. La découverte de ce que finalement cette question des violences sexuelles sur mineurs, on en parlait déjà à la fin du 19e siècle, à la veille de la Grande Guerre. On en parlait évidemment pour les dénoncer, pour les déplorer. Et puis il y a eu ensuite une espèce de reflux, disons, de l'intérêt pour la question jusqu'aux années 1970.
Effectivement, vous avez écrit de nombreux ouvrages, Crimes et délits, entre autres, ou aussi un dossier consacré aux enfants violés, une histoire des sensibilités, 19e, 20e siècle, et Histoire de la pédophilie, 19e siècle, 21e siècle, et publié en 2014 aux éditions Fayard. Et ensuite, donc, vous êtes professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Et vous
C'est
êtes
ça.
Aussi directrice du Centre d'histoire naturelle des sociétés contemporaines à l'université Paris-Saclay.
D'histoire culturelle, pas naturelle. Je ne suis plus directrice de ce laboratoire depuis un an.
Pour vous, quel est ce constat qui vous a amené à rédiger ces ouvrages concernant la pédophilie, notamment, puisque c'est le sujet que vous traiterez à Die?
Eh bien, je l'indiquais tout à l'heure, c'est d'abord une première observation au fil de mes recherches dans la presse de la fin du 19e siècle. Et puis, cette observation s'est transformée en interrogation au début des années 2000, quand j'ai constaté que c'était un moment d'intensification du discours général et du discours médiatique sur la question des violences sexuelles sur les mineurs. Et comme souvent les historiennes, enfin les historiens, je me suis dit, tiens, on en parle beaucoup en ce moment. Est-ce qu'on en parlait autant avant? J'avais ce souvenir d'avoir vu qu'effectivement on en parlait un peu à la fin du 19e siècle. Bref, c'est une espèce de regard rétrospectif qui m'a conduite à aller voir le passé pour essayer de comprendre quelque chose à cette histoire, non pas des violences elles-mêmes, mais des discours sur les violences et de la prise en charge et de la prise en compte de ces violences par le corps social et par la puissance publique aussi, évidemment.
Alors effectivement, c'est face à l'impunité des adultes, quelle justice pour les mineurs. Et il y a depuis quelques années un renouveau justement de ces revendications à cette prise en compte de la pédocriminalité, en plus de la violence faite aux femmes et aux enfants. Il y a donc, pour vous, qu'est-ce qui a déclenché vraiment cet intérêt?
D'abord, L'histoire montre, pour beaucoup de sujets, d'ailleurs pas simplement pour les violences sexuelles sur mineurs ou sur les femmes, que ce que l'on pense être une découverte récente, c'est en fait une découverte beaucoup plus ancienne, mais juste que on est frappé d'amnésie. Et que donc, j'évoquais tout à l'heure, moi, la manière dont mon attention avait été attirée au début des années 2000. Je dirais que l'intention sociale, l'attention avait été attirée au milieu des années 80, au moment de la sortie d'un livre qui est resté assez célèbre, me semble-t-il, qui est Le viol du silence, un livre rédigé par Eva Thomas, qui est publiée en 1986, dans lequel elle raconte comment elle a été violée par son père. C'est donc une histoire d'inceste qui, en quelque sorte, a permis la médiatisation, et c'est un moment très important, hein, la médiatisation de cette criminalité pédosexuelle. Et donc, médiatisation signifie mise en visibilité et évidemment attente d'une prise en compte de cette question. Et moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est que les fluctuations de cette attention portée à cette criminalité révélaient, me semblait-il, de manière particulièrement significative, les évolutions des normes culturelles, des normes sociales, normes qui ont pendant très longtemps conduit à considérer que finalement les violences sexuelles, c'était pas très grave, et puis qui, à un moment, bon, c'est le résultat d'une évolution des sensibilités, d'une évolution culturelle générale, hein. À un moment, ces normes changent. Alors, c'est progressif, c'est frappé de flux et de reflux, mais enfin, bon, ce changement amène à considérer que, ben non, les violences sexuelles, c'est pas quelque chose qui n'est pas grave, c'est quelque chose qui, au contraire, est très grave. Et que donc, il faut aborder cette question de manière frontale. Alors, évidemment, l'entrée en jeu de considérations, je dirais, relatives aux sciences du psychisme, hein, et avec la notion de traumatisme, a favorisé cette prise en compte croissante de la gravité, de cette criminalité-là.
Vous parliez tout à l'heure, selon les périodes, donc une certaine omerta sur ce propos dans la société. Hein. On va s'arrêter juste pour la France. Vous, par la lecture de nombreux périodiques, de la presse aussi de l'époque, vous avez établi ce livre, ces documents, donc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de ce désintérêt par les médias de ce sujet?
Alors, je suis pas, enfin, oui, d'accord, d'accord. Parce que les mots comptent, hein, évidemment, dans ce domaine, comme d'ailleurs dans tous les domaines. Il s'agit sans doute effectivement d'un certain désintérêt. Alors, moi, j'ai commencé à faire cette histoire-là en partant du début du 19e siècle. Donc, au 19e siècle, on constate un certain désintérêt à l'égard des violences sexuelles, hein, de la part, des médias, donc jusqu'à la toute fin du siècle, et de la part de l'ensemble du corps social, pour le dire généralement. C'est pas du tout le cas des juges, qui eux sont très alarmés par ce qu'ils voient arriver dans leurs tribunaux et qui essayent d'attirer l'attention du garde des Sceaux régulièrement dans les rapports que font les présidents des cours d'assises au garde des Sceaux en disant: c'est incroyable, on a beaucoup de cas, et il les quantifie année après année, hein, on a beaucoup de cas de procès pour ce que l'on appelle à l'époque attentat à la pudeur sur mineurs. Or, il y a aussi ces procès s'achèvent assez généralement sur des acquittements ou en tout cas des déqualifications qui entraînent des peines assez légères. Et ils s'en émeuvent en considérant que ce sont des dénis de justice, hein, qui, donc, ils sont les premiers à alerter sur le fait qu'effectivement, il y a une impunité des infracteurs, il y a une impunité des auteurs. Alors, ils ne le font pas au nom des victimes. Il ne s'agit pas au XIXe siècle de rendre la justice au nom des victimes. Les victimes, elles sont quasiment absentes de la scène judiciaire, hein. On rend la justice au nom de l'ordre social et de l'équilibre, je dirais, social. Donc voilà. Mais cette alarme, je dirais, des juges, des professionnels de la justice, n'atteint pas en quelque sorte, enfin ne sort pas des cabinets des juges d'instruction ou des salles d'audience des cours d'assises. Elle a atteint de manière très transitoire à un moment le corps médical et notamment les médecins légistes qui sont chargés de se prononcer à la fois sur la réalité du viol et sur l'état mental des auteurs. Mais c'est aussi une prise en compte qui est très fugitive, et puis ensuite, à partir des années 1880, on en revient à une espèce de doute sur à la fois la réalité des crimes commis et leur gravité. On a tendance à considérer que puisqu'un enfant n'a pas de mémoire, il ne conservera pas la mémoire de ce qui lui est arrivé. Et donc, il va falloir que les médecins aliénistes français, puis les psychiatres du XXe siècle, lisent Freud, l'incorporent à leur façon de penser, pour que très progressivement, donc en grande partie, me semble-t-il, grâce à la psychanalyse, hein, on commence à prendre en compte la notion de traumatisme, et donc qu'on mesure, disons, la gravité du dommage causé à la victime. Et cette prise en compte, elle ne se fait pas avant les années 70 ou 80, 1980. Ce qui explique que Eva Thomas ait été dans des conditions relativement plus, enfin, des conditions qui lui ont permis d'abord de se souvenir de ce traumatisme, et puis d'écrire son livre et d'être invité à la télévision, à l'émission des dossiers de l'écran. C'était quand même pas rien, c'est une émission de grande écoute, hein, de grande audience, et de parler enfin de ce qui lui était arrivé. Elle en parlait 25 ans ou 30 ans après, hein. Donc, en rappelant, enfin en montrant à quel point le dommage subi à 15 ans était un dommage qui se conjuguait au futur, pendant toute la vie de l'individu qui l'avait subi.
Nous abordons donc l'histoire de la pédophilie, ce livre que vous avez publié en 2014, qui s'appuie sur des arrêts de cour d'assises et des dossiers de procédure sur 5 villes françaises et des sources de journalistes. Vous dressez un constat donc sur 2 siècles, et que pour que l'agression sexuelle sur enfant soit reconnue, c'est un long parcours quand même pour arriver à cette fin, et ce n'est pas encore tout à fait fini même.
Non, c'est pas fini. J'ai l'impression que depuis que j'ai commencé à travailler sur cette question, et plus encore évidemment depuis que ce livre a été publié, j'ai assez régulièrement été interviewée par des journalistes qui me disaient: Ah, mais alors là, à l'occasion de toute une série d'affaires et de publications de livres notamment, hein, donc de journalistes qui me disent: Ah, ben ça y est, maintenant ça va changer. Et j'ai coutume de répondre: Oui, peut-être, c'est pas sûr, parce que depuis le temps qu'on dit que ça va changer, ça change un peu, mais pas complètement non plus. C'est-à-dire que, un, l'impunité des auteurs demeure partielle, elle est beaucoup moins massive qu'elle ne l'était, hein, mais il y a encore, bon, évidemment, un certain nombre de cas. Et deux, il semble qu'il soit toujours quand même très difficile aujourd'hui pour des victimes de violences sexuelles, qu'elles soient mineures ou majeures, d'obtenir la reconnaissance pleine et entière de ce qu'elles ont subi, et d'obtenir que les auteurs des violences qu'elles ont subies soient effectivement condamnés par la justice. Donc, c'est une longue marche, j'ai envie de dire, qui a commencé. Il est évident que la dynamique est positive, mais je ne suis pas sûre qu'on puisse se dire: ça y est, c'est gagné.
C'est ce que je disais, donc ce n'est pas fini.
Voilà.
Et donc, il y a aussi, qu'est-ce qui, selon vos recherches, qu'est-ce qui détermine cette impunité des adultes, selon vous?
Alors, moi, pour avoir quand même passé beaucoup de temps à réfléchir à cette question. J'en suis venue progressivement, parce qu'au début, ça restait assez incompréhensible pour moi, à l'idée, en ayant lu beaucoup de témoignages enfin de procès-verbaux, d'auditions, d'accusés, hein, j'en suis venue à cette idée que pour beaucoup d'auteurs de crimes sexuels, et ça semble encore vrai aujourd'hui, au fond, ce qu'ils ont fait n'est pas si grave, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, ça n'est pas si grave. On entend beaucoup d'ailleurs ce discours dans les années 70, et c'est pas si grave, et je crois que voilà, cette évaluation de la gravité ou de la non-gravité plutôt du crime tient beaucoup à la représentation qu'on se fait de la sexualité masculine. Parce qu'il est bien entendu que statistiquement, l'énorme majorité des crimes commis le sont par des hommes. Et sont massivement commis sur des filles, des petites filles, aussi sur des garçons, mais un petit peu moins statistiquement. Et moi, il me semble qu'on a là la mise en acte d'une représentation de la sexualité masculine comme quelque chose qui est une espèce de donnée biologique contre laquelle on ne peut pas faire grand-chose. Voilà. Les hommes sont en quelque sorte, et si on lit le code civil enfin, qui est resté en vigueur pour un certain nombre de choses jusqu'à quand même assez récemment, hein, c'est bien l'idée qu'on retrouve, c'est-à-dire que les hommes sont en réalité, ont à disposition le corps des femmes et des enfants et sont propriétaires du corps de leurs femmes et de leurs enfants. C'est quelque chose qu'on a retrouvé au moment de l'affaire Pénicaud, hein, les violeurs disant, bah, on pensait qu'on pouvait y aller puisque le mari nous avait autorisé. Et je crois que ça, c'est très fondamental pour comprendre à la fois le passage à l'acte et en même temps cette relative impunité. On est dans un monde d'hommes, un monde dans lequel la domination masculine n'a pas disparu, dans lequel le patriarcat exerce toujours sa puissance, disons, et donc ça explique, me semble-t-il, en très large partie, cette impunité relative, hein, encore une fois, mais impunité tout de même qui règne.
Il y a la culture également, c'est un phénomène. Il y a le patriarcat, hein, comme vous venez d'en parler. Il y a aussi le phénomène culturel. Est-ce que il y a aussi des pistes qui vous ont amené à cette réflexion?
Je ne suis pas sûre de comprendre votre question.
Là, vous citez par exemple André Gide par rapport
Ah oui,
à.
d'accord.
C'est pour ça que j'amène des noms
Oui.
connus de la culture française. Il y a quand même des artistes qui ont approché cet aspect-là.
Oui, tout à fait. En ça, disons que on peut distinguer deux choses. Alors la première, c'est que évidemment toutes les revendications de sexualité non hétérosexuelle, ce qu'on appellerait aujourd'hui cisgenre, etc., hein, ont été toujours perçues comme des revendications émancipatrices. Donc, il n'est pas surprenant, d'une part, que la prose de Gide n'ait pas été parfaitement comprise. Elle a été très bien comprise par ses proches, hein, qui voyaient très bien qu'il ne s'agissait pas pour lui, d'ailleurs, il l'a dit, hein, de défendre l'homosexualité, mais bien de défendre son goût pour les enfants, pour les mineurs, hein. Mais ça n'a pas été perçu de son vivant donc comme autre chose qu'une défense de l'homosexualité et donc une défense libératrice, émancipatrice, positive. Et c'est ce qui explique qu'il est servi en quelque sorte de modèle à ces écrivains, ces artistes qui, dans les années 70, après le grand moment de 68, on parlera de moment 68 qui va bien au-delà de l'année 68, évidemment, hein, qui est marqué par à la fois une interrogation générale sur la culture, sur la culture familiale, sur la culture patriarcale, comme et qui est dénoncée donc comme étant dominatrice, oppressive, etc. Hein. Et donc dans le cadre de ces interrogations, la défense de ces sexualités alternatives a été mise en exergue. Parmi elles, il y avait évidemment la défense de l'homosexualité et puis la défense de ce que ces pratiquants se sont mis à appeler la pédophilie en reprenant un terme qui avait été forgé par la psychiatrie et en se l'appropriant en disant bah, finalement, pédophilie, ça n'est jamais que l'amour des enfants. C'est exactement ce que nous professons, ce que nous prenons et ce que nous pratiquons. Et donc, il y a un moment 68-70, disons, hein, dans lequel effectivement c'est devenu un courant culturel, pas massif du tout, hein, mais qui a été entendu en proportion même de son caractère transgressif. Et un des arguments avancés, c'était que si on voulait faire la révolution, il fallait d'abord faire la révolution sexuelle et que cette révolution sexuelle, elle pouvait passer, elle devait, pour ces pratiquants, hein, passer par la reconnaissance de la possibilité pour les mineurs d'avoir une sexualité autonome, d'avoir une sexualité à eux, ce qui voulait dire évidemment pour les défenseurs de la pédophilie, pour les amateurs de mineurs, de se livrer, disons, à leur sexualité, librement et sans craindre les foudres de la justice. Voilà, ça je pense que c'est le moment culturel où effectivement, ces années 70, où se développe, on peut le dire, hein, il y a eu d'ailleurs un certain nombre de travaux là-dessus, hein, une espèce de culture qui est une culture disons de défense des sexualités alternatives, je le dis comme ça, parce que bon. Une défense des sexualités alternatives qui englobe, ou dans lequel, disons, les défenseurs de la pédophilie ont essayé de s'intégrer. Voilà, on peut le dire comme ça. Mais attention, hein, ça n'a pas été massif, d'une part. Il y a eu des contre-feux immédiats, toute une partie de la presse dit, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui essayent de nous faire croire que coucher avec un enfant, c'est libérer cet enfant du joug familial ou de l'oppression maternelle. Et puis surtout, ça n'a pas duré. Ça reflue au début des années 1980.
Je reviens sur un auteur qui était controversé il y a quelques mois ou quelques années. C'est un auteur contemporain qui était pédophile et sur ses écrits s'appuie surtout sur une notion donc, culturelle pour justifier ses actes.
Vous voulez parler de Gabriel Matzneff,
Voilà, c'est
peut-être?
ça.
Oui, alors, bah, si, Gabriel Matzneff, d'une part, effectivement, il emprunte, disons, il se réfère à tout un passé largement fantasmé, déformé d'ailleurs, hein. Le passé de la Grèce classique, dans lequel effectivement des hommes adultes initiaient à la sexualité des adolescents, des éphèbes, etc. Et donc cette initiation sexuelle était ce qui permettait l'entrée dans l'âge adulte de ces jeunes gens, hein. Et en effet, à plusieurs reprises, Gabriel, enfin, c'est ce qui fait le fil conducteur, hein, de sa pensée et de sa plaidoirie, il estime qu'il est le meilleur initiateur possible de la jeunesse, puisqu'il est cultivé, raffiné, qu'il est un lettré, etc. Et qu'il vaut mieux commencer son initiation sexuelle avec lui, pense-t-il, qu'avec quelqu'un de plus, disons, je ne sais pas comment dire, de moins lettré. Voilà, on va dire comme ça. Hein. Mais il estime enfin, Gabriel Matzneff le dit, hein, coucher avec lui, à ses yeux, c'est pour un enfant forcément libérateur. C'est-à-dire qu'il estime qu'un enfant qui se sentirait très bien dans sa famille, qui serait très heureux de passer ses vacances en famille et qui n'aurait pas envie d'aller se précipiter dans son lit pour s'émanciper de cette tutelle familiale, est un enfant ou un jeune homme qui vraiment est promis un triste avenir.
La question reste ouverte face à l'impunité des adultes. Quelle justice pour les mineurs? Et donc, c'est un sujet toujours actuel. Et est-ce que vous avez des réponses à donner pour ce 28 mars?
J'ai pas de réponse parce que parce que en tant qu'historienne, je ne donne pas de réponse pour le présent. Enfin, je ne suis pas sûre de bien comprendre d'ailleurs ce que vous entendez par réponse. Est-ce que ce sont des conseils ou...
Parce que le titre est une question, hein, c'est pour ça, tout simplement.
Oui. Voilà, si, alors la réponse, oui, la réponse que je pourrais donner, c'est que tant que la société n'aura pas intimement incorporé l'idée qu'effectivement cette criminalité sexuelle n'est possible que dans le cadre de la domination masculine, et que donc c'est à la domination masculine qu'il faut s'en prendre, c'est la domination masculine qu'il faut déconstruire et qu'il appartient à chaque homme de se déconstruire en tant qu'homme dominant, on ne réglera pas cette question évidemment des violences sexuelles, qu'elles s'exercent sur les mineurs ou sur les adultes.
Aujourd'hui, il y a eu certains présentateurs de télévision incriminés et condamnés hein, pour corruption de mineurs et qui appartenaient à un groupe de chaînes privées.
Oui.
Vous voyez de qui je parle. Et
Oui.
ma question était à savoir quelle est justement la part des médias aussi sur cet aspect de l'acceptation de la pédophilie ou de la corruption de mineurs?
L'approche des médias, elle est celle de la société tout entière, hein. Les médias sont pas. Enfin, ne sont pas en situation d'isolat vis-à-vis de ce que la société se représente et vis-à-vis de la manière dont elle appréhende les choses. Je dirais que c'est une la situation enfin, les médias comme la société sont en situation quasiment schizophrénique, c'est-à-dire que d'un côté, évidemment, la dénonciation est massive, plus personne aujourd'hui ne songe à défendre les pratiques pédosexuelles. Bon, de ce point de vue-là, la rupture avec les années 70 est tout à fait claire et me semble-t-il, définitive, enfin à ce jour. Et d'un autre côté, bah, il y a dans les médias, comme partout dans la société, comme dans tous les groupes sociaux, des agresseurs qui effectivement ont pratiqué des agressions sexuelles, donc des auteurs d'agressions sexuelles potentiels ou actifs. Il y en a partout. Simplement, effectivement, dans certains milieux, ces agresseurs-là sont mieux protégés, je dirais, que dans d'autres, hein, parce qu'ils ont établi des réseaux d'obligés autour d'eux et que c'est plus difficile de les dénoncer, de les exclure, de les condamner que dans d'autres milieux plus modestes.
Le 28 mars, vous serez à Die, dans le Diois, territoire rural. Est-ce qu'il y a autant de cas sur les milieux ruraux que urbains?
Oui, il y en a autant. Enfin, pour l'instant, la difficulté, disons, des études statistiques documentées sérieuses et sociologiques, je dirais, et géographiques sur ces questions, c'est qu'évidemment, on a affaire à des données statistiques qui sont celles de la justice ou de la police, c'est-à-dire qui sont celles de la criminalité légale, c'est-à-dire révélée. Donc, ce sont toujours des chiffres qu'il faut manipuler avec beaucoup de précautions. Bon, ce qui a l'air de se confirmer depuis qu'on fait des études longitudinales, depuis qu'on fait des études de victimation notamment, ce qui a permis quand même d'aborder la question un peu différemment que sous l'angle de la criminalité légale, c'est qu'il n'y a aucune distinction entre les milieux sociaux et entre les zones géographiques. C'est une criminalité qui se pratique dans tous les milieux et dans toutes les régions. On a longtemps cru que l'inceste, par exemple, était un phénomène rural au XIXe siècle, au début du XXe siècle encore, et même pendant une large partie du XXe siècle, on pensait que la criminalité, enfin que l'inceste était une criminalité rurale, disons le fait de contrées arriérées dans lesquelles on avait encore des mœurs archaïques, barbares, etc. Puis on s'est rendu compte au XXe siècle, ben non, l'inceste était le fait de tous les milieux sociaux, de la même façon que l'agression sexuelle est le fait de tous les milieux sociaux. Simplement, elle est mieux, enfin, disons, le secret est mieux gardé dans les milieux dominants qui ont les moyens de garder leur secret, de préserver leur secret.
Selon les écrits que j'ai pu percevoir dans Histoire de la pédophilie, il y a quelques statistiques hein, qui sont énoncées par à l'époque, je pense que c'était au début du 19e siècle, où on parle de 400, 500 cas. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, je crois que ça dépasse plutôt les centaines de milliers par an de cas d'agression?
Oui, bon, alors, je reviens sur les chiffres. On ne peut pas parler de cas d'agression pour le 19e siècle, puisqu'on n'a pas accès. On a accès, comme je le disais, à quelque chose qui est, disons, de l'ordre de la criminalité légale. La criminalité légale, c'est la criminalité révélée, donc c'est celle qui est dénoncée. Or, au 19e siècle, il est à peu près certain que cette criminalité est faiblement dénoncée, tout simplement parce qu'il est très difficile pour les victimes et pour les familles des victimes de dénoncer quelque chose qui entache l'honneur et donc l'avenir de la victime. Une petite fille qui a été violée, si elle poursuit enfin, si sa famille, parce qu'elle ne peut pas, mais si sa famille poursuit son agresseur, elle hypothèque ce qui est son capital principal, surtout dans les milieux modestes, c'est son avenir de femme mariée. Hein. Puisque si elle a été violée, elle n'est plus, possiblement, elle n'est plus vierge. Donc, ça explique la faiblesse des cas. Et puis l'autre raison, c'est que les citoyens, les justiciables se méfient de la justice. La justice, c'est un peu leur ennemi, hein, jusqu'à la fin du 19e siècle. Ils se méfient de l'État, ils se méfient de la justice, ils se méfient des représentants de l'État. Donc on ne va pas dénoncer. On ne va pas en justice, on ne dénonce pas. Éventuellement, on dénonce au curé, on dénonce au maire du village et on essaye de régler la question au sein de la communauté villageoise. C'est ce qu'on appelle le règlement infrajudiciaire. Alors, les choses commencent à changer à la fin du 19e siècle et donc on assiste à une augmentation. Des chiffres de cette criminalité, encore une fois, légale, c'est-à-dire de cette criminalité révélée, qui témoigne surtout du fait que la criminalité sexuelle est davantage et mieux dénoncée et qu'elle est mieux traitée par les services de la justice. À la fin du XXe siècle, la chose est encore différente, puisque là, je le disais tout à l'heure, on s'est mis à développer des enquêtes de victimation, c'est-à-dire qu'on passe plus par le truchement des statistiques officielles, mais on passe par des enquêtes de terrain auprès de la population générale. Et la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles, donc la CIVIS, hein, en publiant son rapport en 2023, non, 2024, hein, a estimé à 160 000 le nombre d'enfants victimes de violences sexuelles chaque année. Mais évidemment, sur ces 160 000, on est très loin de 160 000 cas dénoncés à la justice, rapportés à la justice.
L'actualité, toujours au XXIe siècle, il y a cette affaire Epstein qui déborde jusqu'en France, puisque certaines personnes sont incriminées. C'est un autre sujet, peut-être, selon vous, ou alors c'est déjà aussi l'amorce de bouleversement et de progrès, peut-être, à espérer?
Bon, alors comme je le disais tout à l'heure, progrès peut-être à voir, hein, voir ce qu'il sortira de cette affaire Epstein, qui est une affaire compliquée parce que Parce qu'il va falloir traiter de manière sérieuse, rigoureuse, hein, ces millions de pages du rapport. Pour l'instant, on voit des noms sortir, mais on ne sait pas du tout pour quel motif et à quel sujet ils sortent. Donc, il faut se garder de toute précipitation. Il faudra sans doute des années pour obtenir des résultats, pour avoir des réponses. Et je disais, il faut se garder de toute précipitation, parce qu'évidemment, comme cette affaire Epstein met en cause, en gros, ben justement, ces personnalités dominantes dans le monde de la politique, de la culture, hein, comme à chaque fois que ces personnalités dominantes sont mises en cause, on sent un certain plaisir, disons, à faire tomber de leur piédestal les grands de ce monde, pour le dire comme ça. Et donc, il faut se méfier aussi un peu de ça, de cette possibilité de voir dans l'affaire Epstein l'occasion d'une revanche qui serait très malvenue en matière de traitement des violences sexuelles sur mineurs.
Je reviens un peu sur ce grand groupe, enfin ce groupe médiatique qui abritait cet animateur compromis et qui a mis beaucoup de temps à se séparer de cette personne. Est-ce que pour vous, ça révèle aussi un aspect de cette tolérance et comme vous dites, ce n'est pas si grave. C'est quand même une pensée qui existe toujours aujourd'hui.
Oui, bien sûr, hein, bien sûr. Je pense que c'est tout à fait représentatif de ce que je disais, c'est-à-dire, oui, le refus. Moi, je parle pas de déni. Vous voyez, on parle parfois de déni à l'égard des violences sexuelles. Je dis non, c'est pas du déni, c'est de la résistance. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie du corps social qui résiste, non pas à reconnaître la réalité de ces violences sexuelles, mais à reconnaître simplement le fait que ce sont des violences et que ce sont des crimes, ou dans certains cas des délits depuis le nouveau code pénal de 1994. Donc c'est pas du tout surprenant, et cette résistance, elle va perdurer, bien entendu, elle va peut-être se réduire au fil du temps à quelques cercles de plus en plus circonscrits, mais on voit bien qu'effectivement, à propos de l'affaire que vous hésitez, enfin, c'est même un peu effarant de constater à quel point les mesures d'éviction étaient difficiles et longues à mettre en œuvre.
Et d'ailleurs, sans vouloir vous gêner, mais ce même groupe est propriétaire des éditions Fayard. Est-ce que vous êtes inquiète peut-être pour la suite de cette édition, de cette histoire de la pédophilie ou,
Ah ben, oui, je suis inquiète, bien entendu. D'ailleurs, on est un certain nombre d'auteurs de chez Fayard à avoir demandé aux éditions Fayard de retirer nos ouvrages du catalogue et de les transférer à d'autres maisons d'édition, bien sûr. Alors, mais c'est pas à titre personnel, hein, c'est que ben, voilà, nous sommes un certain nombre à ne plus vouloir apparaître dans le catalogue Fayard compte tenu de la personnalité de son propriétaire, pour le dire comme ça.
Voilà, donc le 28 mars, vous serez à cet échange, salle Séverine Baumier. Vous répondrez aussi au public présent.
Avec plaisir, oui.
Et bien, en tout cas, je vous souhaite. Et puis, peut-être on peut vous retrouver sur Internet. Est-ce qu'il y a des documents qui sont disponibles sur le sujet de votre part?
Oh oui, il y en a plein. Oui, on me retrouve facilement. Avec le nom que j'ai, on me retrouve facilement.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, Anne-Claude Ambroise-Rendu, de nous avoir donné un peu de votre temps pour nous parler donc de cette conférence que vous allez donner le 28 mars. Et je rappelle le titre, Pédocriminalité, deux points, face à l'impunité des adultes, quelle justice pour les mineurs. Pour finir l'émission, est-ce que vous auriez une proposition musicale?
Oui, il y aurait peut-être la chanson de Barbara, Marie Chenevance.
Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup à vous aussi.
Au revoir.
Je me souviens qu'elle croyait magicien. Oh, avait inventé un oiseau qui danse. Il l'avait donné avec innocence à Marie, à riche et démence. À Marie, à riche et démence. Mais elle était une petite fille, alors ils ont fait des histoires en le jetant derrière des grilles parce qu'ils n'ont pas voulu croire. Ils allaient simplement. Ils allaient doucement, loin la main dans la main, la main dans la main. Je me souviens, elle le croyait magicien. Marie, Marie Chenevance. Oh Marie, Marie Chenevance. Et voilà l'offense, il avait trouvé comme un air d'enfance dans les yeux noyés de Marie, Marie chez l'avance. Marie, Marie chez l'avance. Mais elle était une petite fille, alors ils ont lâché les chiens sur un pantin de pacotille, et je ne me souviens pas bien. Il lui donnait la main. Riche et devance.